Nous allons continuer notre série d'études. Nous prêchons Christ crucifié. Je crois qu'on arrive à numéro 9 là. Mais nous prêchons Christ crucifié, c'est là, c'est la base du tout. Si Christ n'est pas mort, bien on n'a rien, hein. C'est comme on l'a lu tout à l'heure. Et donc, ce matin, nous allons nous concentrer sur une des paroles de Christ sur la croix, où il dit, dans Luc 23, les versets 33 et 34, il nous dit que lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, parlant de Christ, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est pas seulement, la parole est belle en soi, mais lorsque nous la mettons dans son contexte, hein, cette parole de Christ agonisant sur la croix, et à peine est-il, la croix est plantée, et la première parole qu'il dit, c'est « Père, pardonne-leur ». Car ils ne savent ce qu'ils font. Vous savez, dans la cathédrale de Coventry, à Coventry en Angleterre, cette cathédrale a été bombardée en 1940 et entièrement démolie. Et en 62, on a inauguré un nouvel édifice. Les ruines de l'ancienne cathédrale sont toujours là. Et en fait, ils sont devant l'entrée et l'ancien nef de la cathédrale, bien c'est une esplanade devant l'entrée de l'église. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'on rapporte que derrière la croix calcinée, et elle est toujours là, la croix calcinée, et bien derrière, quelqu'un a écrit « Père, pardonne ». Père, pardonne. Et en fait, cette scène et cette image-là, en fait, exprime les deux extrêmes que nous pouvons avoir, l'extrême de la méchanceté humaine, et puis d'un autre côté, cette vertu chrétienne qui pardonne des actions gratuites. Et qui pardonne sans être sollicité, parce que vous imaginez que personne n'est venu de l'armée d'Hitler pour demander pardon, pour avoir démoli l'église, et surtout personne n'a proposé de la reconstruire. Donc nous voyons dans cette cathédrale, lorsque nous voyons un peu nous voyons la méchanceté humaine qui est là, et projet personnel et qui s'impose, et donc l'église et la cathédrale est détruite. Et après il y a la vertu chrétienne que nous avons grâce à Jésus-Christ, Père pardonne. Mais nous voyons aussi l'image, lorsque nous voyons la nouvelle cathédrale qui est reconstruite, c'est que c'est une chose de dire pardonne, c'est autre chose de dire pardonne, je reconstruis. Le pardon coûte toujours. Et c'est là où nous avons une image de ce que la croix représente pour nous, parce qu'à la croix, nous voyons ce que Dieu nous donne une idée de ce qu'est le péché de l'homme et ce qu'il représente pour lui, et au point où il est prêt à sacrifier son Fils. Et en même temps, on a Dieu qui exprime son amour pour nous et son désir de nous retrouver avec lui, et il dit « Père, pardonne ». Et puis on a le Christ mourant qui représente le coût du pardon. Et là, c'est cette image-là que nous voulons voir ce matin. Nous n'allons pas nous lancer dans une description de l'agonie de Christ. Il suffit de visionner le film La Passion du Christ de Mel Gibson pour se faire une idée. C'est la partie souffrance physique, c'est une chose. Mais c'est autre chose que de voir que c'est Dieu et son œuvre et ce qui représente cette croix pour lui. Et ce contexte extraordinaire de cette parole, vous savez, nous, pour moins que cela, il sort des choses de notre bouche qu'on n'aimerait pas répéter après. Et parfois, pour moins que cela, on doit demander pardon. Mais là, Jésus, dans cet état extrême sur la croix, eh bien, et que ça dure pendant 3 heures, et ce qu'on trouve extraordinaire, c'est que pendant tout le long de cette période, de ces 3 heures-là, Jésus ne perd jamais contact avec son Père. Il prie son Père tout le temps. Nous venons de lire, au début, à peine est-il crucifié, à peine est-ce que la croix est tombée dans le trou et qu'on l'a stabilisé, que Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Ça, c'est au début. En milieu d'après-midi, Jésus s'adresse encore au Père et il dit « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il s'adresse encore à lui. Et la dernière parole sur la croix, eh bien, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Jésus n'a jamais cessé d'être, de rechercher le Père et de lui parler. Première chose que je vous fais remarquer, c'est que la prochaine fois que vous n'avez pas envie de prier parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous venez de vivre quelque chose, parce que, peu importe, pensez à la croix de Christ. Lui, sur la croix, il n'a jamais cessé de prier. Combien plus nous, quelles que soient les circonstances que nous pouvons vivre, les plus pénibles, les plus angoissantes, les plus difficiles, les plus injustes, mais on ne dit pas, je ne peux pas prier, je n'ai pas envie. Ben, c'est raison de plus pour prier et s'adresser à notre Père Céleste. Jésus l'a fait, et même lorsqu'il se sentait, il dit, Père, je sens, et en fait, ce n'est pas seulement qu'il le sent, mais il savait, il dit, tu m'abandonnes, mais je te parle quand même. Et parfois, nous pouvons avoir ce sentiment aussi, d'être abandonné, d'être oublié, d'être un peu négligé. Mais Père, quels que soient mes sentiments, quelle que soit ma pensée sur la situation, Père, je te parle toujours. À qui donc d'autre est-ce que j'adresserai mes prières? Et en fait, Jésus pouvait, et ce n'est pas parce qu'il était, fort, c'est sûr, mais il était homme. Et c'est pas pareil, c'est difficile pour un homme, mais vous savez, il y avait cette confiance qu'il avait en lui, que le plan de Dieu était en train de se réaliser. Et l'Épître aux Hébreux nous le dit, il a même la joie qu'il percevait au loin, lui permettait d'endurer maintenant. Il avait cette conviction que le plan de Dieu était en train de se réaliser dans sa vie. Donc il dit, Père, tu es en train de faire ton œuvre, j'ai confiance en toi, moi je te parle et je compte sur toi. Et à partir du moment que ma relation avec le Seigneur est en ordre, que j'ai confessé mon péché, que il est mon seul Seigneur, eh bien je peux continuer, j'ai une relation stable avec le Seigneur. Et puis alors quand je suis dans cet état-là, l'état dans lequel Christ était dans sa relation avec Dieu, eh bien c'est bien plus aisé de pouvoir pardonner même l'injustice. Parce qu'il était dans cette relation avec le Père, elle était ininterrompue, elle était constante, il s'appuyait sur le Père, tout était en ordre entre lui. Il savait qu'il accomplissait la volonté du Père. Il avait prié la veille pendant 3 heures. Il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et bien maintenant, il dit, moi, je peux aller avec confiance. Et je peux pardonner parce que j'ai confiance en toi. Vous savez, j'espère que ne vous attendez pas Pâques chaque année pour lire la crucifixion, le récit de la crucifixion de Christ. Et essayons ici d'en parler souvent et de revenir à ce récit et ces détails, parce que chaque détail a un message. Mais le récit de la crucifixion de Christ peut être lu et relu. Et à aucun moment est-ce que je trouve le moindre indice qui me permette de croire que les bourreaux du Seigneur se soient repentis ou qu'aient exprimé un quelconque regret. Il n'y a personne qui est venu à dire « Oh Jésus, pardonne-nous, on s'est trompé ». Il n'y a personne qui est venu pleurer à la croix, certainement que sa mère pleurait de son côté, mais c'était autre chose. Mais quelqu'un qui, dans la repentance, vient à Dieu. Il n'y avait rien pour que cette... Rien de la part des hommes pour provoquer cette parole du Seigneur, pardonne-leur. Personne n'était venu. Personne n'avait recherché. Il a pardonné sans être sollicité. Pourquoi est-ce qu'il a pardonné? Et c'est très important pour nous de comprendre cela. Parce que si notre pratique des vertus chrétiennes dépendent sur les autres, dépendent du bon comportement des autres, des bonnes pensées chez les autres et les bonnes réactions des autres, ben alors je ne dépends plus du Seigneur. Hein, je m'appuie sur des gens qui sont très instables. Mais Jésus pardonne, une première raison, certaine, c'est un accomplissement d'une prophétie. Hein, dans Ésaïe 53, si vous voulez regarder, là, Ésaïe 53, verset 12, c'est une petite parole là, très souvent on passe dessus sans nous arrêter, sans penser à quoi cela fait référence. Mais dans Ésaïe 53, verset 12, il dit « C'est pourquoi... » Oui, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et ça on en parle souvent. Et la dernière phrase est qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé, il a commencé à le faire déjà sur la croix. Et quand il dit « pardonne-leur », il intercède. Parce qu'il est en train de dire, vous comprenez, il ne dit pas « pardonne-leur » comme ça, il dit « pardonne-leur » car ils ne savent ce qu'ils font. En fait, on va revenir dessus, mais en fait, il prend leur défense. Hein? Il intercède pour le coupable. Première chose, mais il accomplit cette prophétie de l'Ancien Testament. Il dit « il intercédera pour les coupables ». Mais vous savez, c'est un petit détail qui me rassure énormément, parce que nous aussi, on est souvent coupables. Et on a besoin de son intercession. Et quand vous imaginez que dans son état, l'état où il se trouvait, suspendu sur une croix, la douleur, tout le corps envoie des messages vers son cerveau en disant « je ne supporte plus ». Et lui, eh bien, il intercède en faveur du coupable. Alors combien plus aujourd'hui qu'il est assis dans la gloire, pourra-t-il intercéder pour le coupable? Nous pouvons compter sur lui. Si sa performance est telle dans le pire des situations, quelle est-elle dans les bonnes situations, les bonnes conditions? Donc la première chose que nous voyons, c'est il accomplit la prophétie. Et il nous donne un message d'espérance, d'encouragement. Et nous devons voir là ce message. Non seulement est-ce qu'il accomplissait une prophétie, mais en plus, il pratiquait ce qu'il avait enseigné. Parce que on a tous été un peu interpellés, hein, on a tous, lorsqu'on a récité le Notre Père, et quand il dit « Pardonne-leur nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés », c'est toujours un truc que lorsqu'on réfléchit, on a du mal à le dire. Et puis lui, plus tard, il a dit à ses disciples, il a fait le commentaire sur cette prière et il a dit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, 15. Et donc, c'est ce qu'il avait enseigné. Il a dit mais pardonnez. Vous n'attendez pas les autres pour faire ce qui est normal. Pour être obéissant, votre obéissance ne dépend pas des autres et de leur comportement favorable. Il dit, vous pardonnez. Et lui le fait. Et il le fait dans les pires des circonstances. Encore une fois, je le rappelle. Hein, et il dit, moi je vous ai enseigné à pardonner, donc je pardonne. Et lui, le premier, a mis en pratique ce que nous devons pratiquer, c'est de pardonner. Et il a choisi des circonstances où c'était une injustice totale, c'était par jalousie, même Pilate, avec ses idées tordues, avait compris cela. Et pourtant, Jésus pardonne. Je dis, c'est pas humain, ah, ça c'est sûr. Ça, c'est pas humain, mais justement, Christ n'est pas seulement homme. Hein. Il pardonne. Pardonnez, sinon le Père ne vous pardonnera pas. Bon, après, là, j'ajoute quand même, vous dites, oui, bon, bah, lui, mais lui, comprenez que lui, il le fait alors qu'il n'a pas de péché, lui. Hein. Puis il dit... c'est pas que le Père ne va rien lui pardonner. Il n'avait commis aucune faute. Il n'avait pas de péché à pardonner. C'est un peu le genre de situation comme quand il s'est fait baptiser. Il n'avait pas besoin d'un baptême de repentance. Mais il a fait ce qui est juste parce qu'il est. Il a fait ce qui est juste, qui est en tant qu'homme, il a fait ce qui est juste pour l'homme et en obéissance à Dieu et en étant un modèle pour nous. Et là aussi, sur la croix, il n'a pas pardonné pour qu'il puisse être pardonné. Il n'avait rien à se reprocher, ni le Père n'avait rien à lui reprocher. Il avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais, il nous donne l'exemple. Jésus n'a jamais demandé de nous de faire ce qu'il n'a pas fait lui-même. Et il dit, Père, pardonne-leur. Et il le dit... pas lorsqu'il est en train de la multiplication des pains, quand tout va bien, ou juste après la guérison de centaines de personnes à la fin d'une belle journée. C'est pas à ce moment-là qu'il dit pardonne-leur. C'est lorsqu'il se trouve sur la croix et c'est pas sollicité et les pensées sont encore là et les paroles fusent contre lui. C'est là où il dit pardonne-leur. Il pardonne. Ceux qui avaient crié « Crucifie-le », c'est ceux-là qu'il pardonne. Ceux qui le moquaient, c'est ceux-là qui dit « Père, pardonne-leur ». Et cela nous paraît, il me dit « Mais Steve, c'est pas possible, faut être surhumain. Il faut être régénéré, ça c'est sûr. Il faut recevoir la vie nouvelle. » Il faut avoir reçu ce cœur nouveau dont parle David. Hein, il dit, crée en moi un cœur nouveau, un cœur pur. Et il faut l'avoir, sinon c'est sûr que ce n'est pas possible. Hein. Je vais prendre un exemple dans l'Ancien Testament pour un peu comprendre un peu ce que c'est que ce pardon. Et regardez avec moi dans Genèse 45. Donc Genèse 45, bien sûr, c'est Joseph. Vous connaissez peut-être le récit, et je ne vais pas rappeler tout le récit, mais Joseph avait été vendu par ses frères. Il avait fait des songes, et dans ses songes, il transmettait ce message que lui, un jour, dominerait sur tous ses autres frères, alors qu'il était le plus jeune à l'époque. Et et donc, eux, par jalousie, un peu parce que le père faisait du favoritisme aussi, et donc ils le vendent, et puis il part en Égypte, et puis là, il arrive des malheurs. Mais on arrive à 45, chapitre 45, et je vais lire les premiers versets. Il dit « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient », donc il se trouvait devant ses frères. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et donc tous les 11 sont là, hein, Benjamin aussi, tous les 11 sont là. Et eux, ils y croient avoir affaire avec un Égyptien. Et puis alors, tout d'un coup, verset 2, il éleva la voix en pleurant. C'est eux qui devaient pleurer, normalement. Hein, c'est eux qui avaient fait le mal. Et là, c'est lui qui pleure. Et il nous dit, les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Donc, c'était pas juste des petits sanglots. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » J'aurais bien voulu voir un enregistrement vidéo là, de leur réaction. Il dit, « Mon père, vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Bien sûr, tout d'un coup, c'est tout leur passé qui revient, tout ce qu'ils avaient fait, tout ça. Wow. Et là, maintenant, lui, il est en position de pouvoir se venger. Là, il a tout pour se venger, et nous, nous sommes pris comme des lapins dans une cage. On est dans le palais. Mais Joseph dit, au verset 4, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi, père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur sur tout le pays d'Égypte. » Il n'y a pas le mot « je vous pardonne », mais on comprend bien. Et là, tout d'un coup, on trouve Joseph qui est là et qui est en mesure de pouvoir se venger, mais il ne se venge pas. Mais il dit « Mes frères, écoutez, il n'y a rien entre nous. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. J'ai compris que ce qui est arrivé, c'est le plan de Dieu. Et donc, je n'ai pas à vous en vouloir. » Et il dit, oui, c'est vous qui m'avez vendu, ça je sais, hein, je m'en souviens, vous vous en souvenez aussi, et là il n'y a pas de problème. Il ne nie pas la faute, il n'essaye pas de couvrir, il n'essaye pas de minimiser, ni rien du tout. Il dit, oh, c'est vous, vous avez voulu faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Et pour Joseph, la chose était réglée. Vous savez ce qui est... Pourquoi ? C'est pas parce que la faute n'était pas digne de jugement, c'est pas parce que les frères n'avaient pas besoin d'être repris, mais c'est parce que Joseph avait compris que Dieu contrôle le tout. Et lorsque je comprends que Dieu contrôle ma vie, quand Dieu accomplit son plan dans ma vie, eh bien, en même temps, je suis convaincu que personne ne peut gâcher quelque chose dans ma vie. Quand je manque de confiance en Dieu, quand je dis, mais ma vie, et cette personne, elle a fait ça, elle est en train de démolir ma vie, elle est en train de démolir mes chances, elle est en train de me faire du tort, elle me fait mal voir, elle est en train de me donner une mauvaise image devant les gens. Et quand je pense que, et quand je suis convaincu que cette personne veut le faire, et peut-être réussit à le faire, et peut-être a déjà réussi à le faire, et je suis là la victime, quand je vois la chose comme ça, bien sûr, quand je vois comme ça, c'est difficile de pardonner. Mais quand je dis qu'ils disent ce qu'ils disent, qu'ils fassent ce qu'ils fassent, moi, j'ai confiance en mon Dieu. Et finalement, ils me font de la peine parce que... Et je les pardonne. Je les pardonne parce qu'ils ne comprennent pas. Et puis, tout d'un coup, je me retrouve dans une situation comme Jésus sur la croix. Vous savez, la souveraineté de Dieu, ce n'est pas un truc mystérieux. La souveraineté de Dieu, c'est cette confiance que Dieu prend soin de nous. On a parlé longtemps du berger qui prend soin de ses brebis. Et lorsque je vis dans cette confiance que Dieu me garde, que Dieu prend soin, que Dieu pourvoit, et personne ne peut me démolir sans que Dieu intervienne et limite les dégâts, selon son plan, bien, je peux me fâcher avec personne. Finalement, je commence après un certain temps, je commence à dire, je commence à comprendre comment Dieu s'est servi de cela pour m'amener jusqu'à lui. Je commence à comprendre comment Dieu s'est servi de cela pour faire ressortir certaines choses dans ma vie. Je comprends comment Dieu... Et puis tout d'un coup, je commence à dire... Et là, tout d'un coup, c'est la louange, et puis on dit... Oh, je ne vais pas me fâcher avec les gens. Finalement, Dieu s'est servi d'eux. C'est dommage que ce soit eux qui l'aient fait, parce que c'est sûr que ça m'a fait mal. Mais moi, je pardonne. Parce qu'en fait, c'est Dieu se servait de cela pour accomplir un plan. Et c'est ainsi que Joseph a pu être libéré des pensées qu'il a pu avoir quand tout d'un coup il se retrouvait entre les mains des Ismaélites et en direction de Jérusalem, de l'Égypte, ou les pensées qu'il a pu avoir lorsqu'il s'est trouvé injustement accusé et jeté en prison en Égypte, sans aucun espoir de pouvoir un jour revoir son père et sa famille. Et il avait certainement eu des pensées, mais maintenant il les a plus. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et Jésus sur la croix aussi, finalement, il voit ces hommes qui sont en train de faire et puis il comprend que c'est mal ce qu'ils font. Mais il sait que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et les apôtres vont le comprendre un peu plus tard, parce que Pierre lui-même, le jour de Pentecôte, qui va se lever, il va dire, mais vous avez voulu faire du mal, mais Dieu l'a transformé. Et il vous offre le pardon de vos péchés, parce que Christ est mort. Il dit, oui, Pilate, Hérode se sont ligués, mais Dieu a accompli son œuvre. Et lorsque je comprends que Christ... Et je comprends qu'il était nécessaire, afin d'offrir le pardon, que Christ meure sur la croix. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, il nous dit « Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Eh bien, Dieu, quand Christ est mort, Dieu a dit « Voilà, je paye le prix et je pardonne tout le monde, j'offre le pardon à tout le monde. » Alors il se peut que quelqu'un dise oh, ben alors ça c'est super ben donc tout le monde est pardonné. Eh bien je vous rappelle que dans l'histoire de Joseph, 5 chapitres plus loin, donc le chapitre 50, Jacob meurt et les frères tout d'un coup disent ah mais peut-être Joseph il a été gentil avec nous parce que papa il vivait encore. Par respect pour papa, mais maintenant que papa est mort, là, il va régler les comptes. Et là, eux, ils ont commencé à trembler. Et donc, ils ont même eu peur de venir dans sa présence. Ils ont envoyé quelqu'un vers Joseph pour lui dire, écoute, pardonne-nous, hein, on sait qu'on est mal agi et tout ça, et pardonne-nous. Et en fait, je ne sais pas s'ils ont raconté du vrai ou du faux, mais dit, même ton père nous a dit de te demander de nous pardonner. Vous savez, mais Joseph, quand il les entend, il dit, mais moi, il n'y a rien dans mon cœur contre vous. Pas de problème, ne vous en faites pas, continuez, c'est pardonné. Pardonner, c'est pardonner. C'est un peu... eux, ils ont demandé pardon avec décalage. Ils n'ont pas demandé, quand Joseph a dit « Je suis votre frère », ils n'ont pas dit « Oh, pardonne-nous ». Ils n'ont rien dit. Ils n'ont fait que trembler. Et le seul qui a été libéré de la chose, c'était Joseph. Mais eux, ils n'avaient pas été libérés. Et ce n'est que plus tard qu'ils demandent pardon. Oui, mais vous savez, c'est un peu ça aussi. Sur la croix, Jésus dit, pardonne-leur. Mais après, il y a un moment où nous comprenons et nous venons dire, mais pardonne-nous. Quand Christ a dit sur la croix, pardonne-leur, Dieu a été libéré. On ne peut plus l'accuser d'injustice. Il a fait son devoir, il a pardonné. Il a payé le prix pour que tous les hommes puissent être sauvés. Et lui, il était libéré de tout ce qu'on pourrait amener contre lui. Mais les hommes, il est nécessaire pour chacun de venir et demander pardon. C'était un peu à Pentecôte, quand Pierre il s'est levé, il a dit, mais vous savez, c'est vous qui l'avez crucifié, c'est vous qui l'avez... Et Dieu l'a ressuscité. Et les gens, ils ont dit, mais... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, frère? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait du mal. Il dit, ben, repentez-vous. Croyez. Soyez baptisés. Il dit, c'est le moment. Lui, il a pardonné sur la croix, mais maintenant, vous pouvez être libéré de votre culpabilité en demandant le pardon. Et vous savez que vous pouvez l'avoir parce que lui, là, est déjà accordé. Et il n'y a pas ni à attendre, ni rien du tout. C'est apporté. Mais on demande pardon. Et Dieu, dans sa grâce, hein, ces habitants de Jérusalem qui avaient crié « Crucifie-le !» et puis qui avaient, c'était le moquer et toutes sortes de choses. Dieu, dans sa grâce, leur a accordé une quarantaine d'années, plus de 35 ans. Et ce n'est qu'en l'an 70 que Titus, futur empereur de Rome, eh bien, va venir et raser la ville de Jérusalem. Mais il a donné du temps pour qu'ils se repentent. Et beaucoup se sont repentis. Et ceux qui se sont repentis, ceux qui ont demandé pardon, eh bien, ce sont ceux qui ont été l'origine de l'Église. Les premiers croyants. La première Église a pris forme. C'était la conception, c'était la naissance de l'Église primitive. Ce sont ces gens qui ont dit, oui, ils nous pardonnent, mais maintenant c'est nous qui demandons pardon. Et ils ont pu jouir de cette libération, libérer de la culpabilité du péché, et ils ont pu vivre comme par la suite, eh bien, Joseph et ses frères, après le chapitre 50, tout le monde est à l'aise, les uns avec les autres, et ils vont vivre ensemble, dorénavant. Et donc, il est important pour nous aussi, hein, de comprendre l'œuvre de Dieu en notre faveur, et de comprendre ce que signifie son pardon et de saisir, comprendre. Il y a des gens qui ont cette idée que ben Dieu, ben, puisqu'il aime et tout ça, ben il excuse tout, il pardonne tout, il ferme les yeux et tout ça. Mais ça, c'est pas Dieu, hein. Ça, c'est peut-être celui que les hommes veulent s'inventer. Mais nous avons affaire avec celui qui est, pas celui que nous avons inventé, pas le produit d'une imagination ou d'une religion, mais le Dieu qui nous est révélé dans l'Écriture. Alors je reviens à la croix, je dis la croix, ben c'est le symbole du pardon de Dieu pour les hommes. Et le pardon est gratuit, pourquoi? Parce que la croix nous rappelle que le prix a été payé. Et là, Jésus, déjà encore sur la croix, il commence à parler comme un avocat. Il dit, mes pères, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et plus tard, Paul lui-même, dans 1 Timothée chapitre 1, chapitre 2, il dira, mais c'est dans ignorance que j'ai persécuté l'Église, c'est par ignorance que j'ai... Mais maintenant, Dieu m'a fait miséricorde. Il dit, oui, il comprend, le pardon a été prononcé à la croix, mais il a dû arriver à un moment où lui a compris l'œuvre de Dieu et il a demandé le pardon et il a été libéré. Et il dit, c'était par ignorance. Et Jésus comprenait, mais il dit, mais une fois que vous êtes informés, c'est ce que Pierre a fait hein, dans les rues de Jérusalem, il les a informés, il a dit, écoutez, je veux vous dire la réalité, ce qui s'est réellement passé et qui était vraiment Jésus. Et il va donner plein de passages, une série de passages bibliques pour dire, mais Jésus, c'est celui dont la Bible parlait, dans l'Ancien Testament parlait, les prophètes ont parlé. C'était vraiment lui et vous l'avez crucifié. Oh mais, oh là, maintenant que l'on comprend, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, écoutez, lui, il a pardonné. Maintenant, demandez pardon. Repentez-vous et vous aurez la vie. Et ils sont rentrés, ils ont formé l'Église et il nous dit, Dieu a ajouté à l'Église ceux qui croyaient. Hein, c'était ces choses extraordinaires. Et donc, vous savez, même le brigand qui était là et qui au début ne savait pas qui était Jésus, il pensait que c'était un autre comme les autres, mais à force de voir le comportement de Jésus sur la croix et à force d'entendre les paroles, c'était quand même la grâce de Dieu qu'il a mis un brigand d'un côté et un de l'autre pour qu'ils entendent bien ce que Jésus dit. Et il y en a un qui à un moment il dit à son collègue, il dit, écoute, nous, on sait pourquoi on est là, mais lui, il n'a rien à faire là. Et puis il se tourne vers Jésus, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus lui dit, c'est quand même extraordinaire, à quelqu'un cloué à une croix, on lui demande, écoute, sauve-moi. Mais il a compris quelque chose, que Jésus n'était pas un homme. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est si rapide. Pourquoi? Parce que la première parole, c'était « Pardonne-leur ». Et donc, tout était fait, tout était accompli. Et maintenant, il suffit que nous venions et que nous disions « Seigneur, j'ai péché, j'ai mal agi, pardonne-moi. » Et le pardon est là. Il dit « Moi, de mon côté, j'ai que de l'amour pour vous. C'est vous qui portez encore la culpabilité. » Mais libérez-vous, dégagez-vous de cette culpabilité et demandez pardon. Et il vous le donne. Et c'est ça le message extraordinaire de la croix. Et nous ne voulons pas l'oublier. Et nous avons besoin nous-mêmes, nous avons besoin de nous en souvenir régulièrement. Et que le Seigneur nous aide à voir la croix de Christ comme un rappel. C'est là qu'il m'a pardonné. Et puis ensuite, je me souviens de l'endroit, du moment où j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et là, pour Joseph, il y avait le chapitre 45, et puis après, pour les frères, il y avait le chapitre 50. Pour nous, il y a la croix de Christ, et puis après, il y a un autre moment dans notre vie où nous demandons pardon, et après, tout est réconciliation totale et pardon. Que le Seigneur nous aide et que nous soyons encouragés, que nous soyons, s'il y a une démarche à faire, que chacun se sente prêt à le faire. Je ne sais pas quelles ont pu être vos pensées, mais on va prendre un moment de silence et que chacun puisse méditer et dire au Seigneur, que ce soit merci, que ce soit Seigneur, eh bien écoute, je veux aller jusqu'au bout, que ce soit peu importe, mais sachez qu'il a dit pardonne-leur. Bon, c'est, même si c'était par ignorance, pardonne-leur, mais que eux se rendent compte, qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait.